La semaine passée, tu as eu la chance d'entendre mon podcast en live que j'avais enregistré devant public dans le cadre du festival d'humour, le Minifest. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de plaisir à parler avec Lucie Joubert et Val Bézile. Et là, aujourd'hui, c'est autre chose, hein? On aborde un autre thème. Aujourd'hui, je vais recevoir l'humoriste Maxime Gagnon. Ensemble, on a parlé tellement de plein de choses, notamment aussi de son intérêt sur la série télé Kaamelott, qui est une série télé française. Je te parle pas plus de ça parce qu'elle va en parler vraiment mieux que moi en ce moment. Elle va te le vendre, c'est sûr. Avant de ma rencontre avec elle, ben, je lui ai envoyé une liste de 10 questions, puis elle devait en choisir 3. Donc, ensemble, on va découvrir c'est quoi les 3 questions qu'elle se pose. Je m'appelle Coralie Dubeau, je suis humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Bonjour Maxime.
Bonjour Coralie.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Oui. Encore merci de ton déplacement de Rosemont, de Rosemont jusqu'ici à Terrebonne.
Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment gentil.
Ben, écoute, j'ai vraiment pensé à toi, à t'inviter, parce que je t'ai vu dans un bar, justement, faire du stand-up, puis j'aime beaucoup l'angle que tu utilises pour valoriser la différence, puis c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, la différence, parce que, bon, je suis chinoise, là, je pense pas inaperçue, et moi, je combats, justement, les stéréotypes de genre, les stéréotypes en général, le racisme, bref, avec toutes ces, je trouve ça... Notre discours se rejoint un peu dans un certain sens. Puis j'avais envie de t'apprendre aussi à te connaître davantage. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité.
Merci beaucoup.
Et là, dans la liste de 10 questions, t'en as choisi 3. Puis là, on va y aller avec la passion. Ça te va?
Oui.
Donc, il y a une question. C'est quoi ta passion?
Donc, mes passions changent assez régulièrement. Pas nécessairement de constante, mais j'ai souvent, mettons, j'ai trippé sur l'histoire, j'ai trippé sur l'humour présentement. Présentement, ce qui me passionne vraiment depuis comme quelques mois, c'est la langue, mais comme l'histoire de la langue, l'étymologie, puis tout ça. J'ai eu un cours là-dessus à l'université, puis ça m'avait comme fasciné de voir d'où est-ce, surtout plus le français, parce que c'est la langue qu'on parle, fait que c'est plus celle que je connais, mais de voir aussi des fois des parallèles avec les autres langues, de voir d'où est-ce que le français y arrive, de comment les mots sont arrivés, de où est-ce qu'ils viennent. Je trouve ça vraiment passionnant, hein. Je sais pas, toutes les fois, des fois, je tic, j'écris un mot, puis où je vois un mot écrit, puis je fais comme, ah, ok, ce mot-là, ça veut dire ça, puis ça, puis c'est comme tu peux le déconstruire, puis ok, ça veut dire que ça vient du latin, de là, des comment on conjugue des affaires aussi. Ça me passionne. Quand j'apprends les autres langues aussi, des fois, je le vois, comme j'ai essayé d'apprendre un peu l'espagnol cet été, puis je voyais comme les parallèles avec le français aussi, puis même le latin, puisque j'ai appris un petit peu le latin à l'université aussi. Fait que ça m'a comme beaucoup aidé de tout voir les différences entre l'allemand puis l'anglais, des choses comme ça. Je trouve ça passionnant de voir l'histoire de la langue derrière tout ça, de voir à quel point ça change, à quel point la langue est vivante. Tout ça avec les débats actuels, avec le YEL, des affaires de même, de voir que juste la langue, ça change, la langue, ça s'adapte avec le temps. On peut pas battre ça en tant que tel parce que tout s'impose, de juste voir la différence entre le français québécois et le français de France, à quel point justement tout divague, des petits mots faciles comme souper. C'est un mot qui était dans la langue française avant puis qui l'est plus aujourd'hui. Ben, qu'il l'est au Québec, mais qu'il l'est plus en France. En France, ils disent pas souper, ils vont dîner. Ils vont utiliser dîner, petit déjeuner ou déjeuner pour le dîner. Fait que de juste voir des petites distinctions comme ça, que ça vient à m'amener pis ça repart, je sais pas, ça me fascine.
Oui, puis surtout, là, tu me fais penser, nous, avant la langue française, on a été conquéris par les Anglais. Puis là, souvent, ils disaient bécosse, le mot bécosse. J'ai appris que le mot bécosse, ça vient du mot back house. Dans le fond, si, admettons, tu veux aller à la toilette, ben, il faut que tu ailles en back house. Va back house, va en arrière, dans l'arrière, fais ça à l'arrière. Mais là, ça vient de bécosse. C'est la langue qui a comme le mot, on l'a modifié avec le temps pour juste rappeler qu'on va aux toilettes. Fait que moi, j'aime ça parce que moi aussi, j'ai eu un cours d'histoire de la langue française. Puis savoir d'où ça vient, des mots, l'étymologie, t'sais, mettons, calcul, ça vient du mot caillou. Parce que dans le temps où il comptait, c'est avec des cailloux. Puis là, ça modifie avec le temps, puis ça s'appelle calcul. Mais je sais pas, si t'as-tu d'autres mots aussi que tu connais?
Ouais, ben je sais que récemment, justement, j'ai comme stické sur ce mot-là, mais manuscrit. Il est comme manuscrit, c'est manu, puis script. Manus, c'est de main en latin, puis scri, c'est de scriptus, qui est écriture. Fait qu'écriture à la main. Fait que quand tu demandes un document manuscrit, ben tu demandes un document écrit à la main.
Mm-hmm.
Fait que des petites choses comme ça, comme j'ai vu la différence, souvent, c'était trois mots-là, ils mystiquent, mais épice, école, puis là, j'oublie de l'autre, qui est esprit. Si tu vas en latin, c'est spiritus, scola, puis j'oublie l'autre mot que j'ai utilisé déjà.
Épice.
Épice, qui est spice, ben pas spice, mais qui est, je m'en rappelle plus c'est quoi en latin, mais c'est quelque chose comme ça qui est pas loin de ce mot-là. Puis en anglais, ils ont comme repris ces mots-là. Eux, ils se sont concentrés sur les spé, ils ont continué ça comme spice, justement, school, spirit. Puis en français, c'est juste esprit, parce que nous, on a abandonné le S, on a mis un moment donné, c'était ES, pour esprit, espirit. Puis là, ça a changé. À un moment donné, on a juste commencé à dire « esprit » au lieu de « esprit ». Fait qu'on a enlevé le « s ». Même chose pour « école ». Au début, c'était « école ». Mais « étude ». Moi, je pense que je mélange avec « étude ». Mais « étude », puis là, ça a fini par juste être « étude », des affaires de même. Puis tout ça a changé. Puis c'est le fun, parce que dans mon cours, on voyait comme vraiment des documents écrits, justement, des documents manuscrits. Puis tu le voyais à force comment ça changeait tranquillement, pas vite. Puis les changements, puis des fois, ça venait de nulle part. Des petites affaires, des fois que tu voyais que c'était plus dans la langue, comme il y avait tendance en latin à utiliser comme pour le mot oreille, il rajoutait tout le temps un petit mot cute afin de comme petite oreille, puis ça finit par comme rester dans la langue, puis ça restait, puis là ben aujourd'hui on a oreille au lieu de or, fait que c'est des petites choses comme ça que je trouve c'est fou.
Okay, c'est intéressant. Puis là j'essaie là pendant que tu parles j'essaie d'essayer de trouver un mot que j'ai appris le début d'où ça vient puis l'étymologie parce que souvent dans le dictionnaire exemple je cherche un mot c'est ce qui est le fun c'est qu'il y a toujours la petite origine où il est écrit en latin puis j'ai remarqué souvent es tu sais le s il est souvent là tu sais comme t'as dit étude estude puis là il a comme disparu le s ça, pour finalement faire un son un différent son. Fait que j'essaie de penser à un mot, mais j'ai pas pour l'instant un mot. Je sais que je suis comme un peu déçue, mais je reviendrai là-dessus si peut-être j'ai un pop-up. Puis j'avais aussi une question pour toi. Est-ce que, étant donné que, là je sors un peu, étant donné que tu aimes beaucoup la langue française, tu es une personne qui écrit beaucoup par rapport à ça?
J'écris pas tant beaucoup par rapport à ça, par contre. Je lis plus, si je le lis, c'est plus quelque chose qui est tout le temps dans ma tête. Quand j'écris, par exemple, des fois je tique sur des mots. Mais j'écris pas tant là-dessus, par contre. Mm-hmm. Ça, non. Mais non, ça, c'est plus une passion, ça, qui a été récente. Fait que c'est juste tout le temps, je fais mes petites recherches là-dessus. Je fais des petites affaires de des mots, justement, je vais voir l'étymologie. Ou des fois, ça me poque, justement, quand j'écoute des affaires dans d'autres langues. Puis là, j'entends un mot qui est comme... Je pense que je connais ce mot-là.
Mm-hmm.
Puis là, je le cherche, puis là, je vois que c'est une déformation d'un mot français ou un mot latin. Fait que je trouve ça vraiment comme fou de juste voir justement la différence des fois avec l'espagnol de en latin il y avait comme deux fois le même ben il y avait deux mots pour dire la même chose le français en a choisi un l'espagnol en a choisi un autre puis t'en as normalement comme les espagnols les portugais ils ont une tendance à choisir les mêmes mots puis là c'est pour ça qu'en français on a l'air si différent d'eux autres même si on part vraiment de la même langue on part tout du latin que c'est fou de voir cette différence là hein. Comme récemment j'écoutais une vidéo c'est vraiment fou c'était comme trois personnes il y avait un français un portugais un espagnol. Puis il essayait comme de comprendre l'autre qui parle. Puis le portugais puis l'espagnol, c'était comme s'ils parlaient limite la même langue. Comme un français puis un québécois, il y a des mots qui perdent, mais ils comprennent l'essence. Mais quand ça venait le tour du français, les deux, ils se regardaient puis ils comprenaient rien de ce qui se disait. Parce que même l'accent aussi est vraiment différent en France. Mais pourtant, tout vient quasiment du français, du latin. On a rien pris quasiment du gaulois. On a comme, je pense, 10-15 mots en gaulois dans langue française.
Oh, oui.
Pas plus.
Ce serait quoi comme un mot gaulois?
Il y a boileau. Comme pour un boileau, comme l'arbre, le boileau blanc.
Ah oui, oui, oui.
Comme ça vient du Celte, ça vient des Gallois. Mais sinon, ben je dis des Gallois, mais c'est Gaulois. Gallois, c'est Pays de Galles. Mais de voir ces petites affaires-là, de juste, on a 15 mots, tout le reste, à la limite, on a plus d'influence suédoise dans notre langue qu'on en a des Gallois qu'on vient de Gaulois, j'arrête pas de dire Gallois, mais des Gaulois qu'on vient de eux. C'est fou de voir ça, dans quel point la langue peut être comme opprimée en tant que telle, si c'est les hauts dirigeants qui choisissent, c'est ça. Avec les régionalistes aussi, que tout s'en vienne.
Mm-hmm.
C'est... Je trouve ça fascinant de voir la langue en tant que point, ça divise. Ben, pas ça divise, mais à quel point ça devient vite différent, puis les branches se grandissent. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense, avec l'Internet, les médias sociaux, puis tout ça, on va plus commencer à se regrouper, puis le français va plus devenir homogène. Ce qui est un petit peu triste, mais en même temps, ça aide la communication de tout le monde. Fait que c'est un positif un peu pour un négatif. Mais j'aurais trouvé ça fou de voir, mettons, si on arrêtait 200 ans de plus au Québec, vraiment plus comme... Juste au Saguenay, je viens de là, puis ça a même pas 200 ans quasiment au Saguenay à cette heure. Puis on a déjà vraiment des patois, on a des mots que personne comprend, que je savais même pas quand je suis sorti du Saguenay, de comme, je comprends pas pourquoi on comprend pas le mot froc, là, je cherche ma froc. Tout le monde est comme, de quoi tu cherches ton froc? Ben, je veux ma froc, je veux m'en aller, et où? Là, j'ai comme, je comprends pas de quoi tu parles. Ma veste, c'est où? Ah, ta veste? Pourquoi t'as pas juste dit veste? Ben, froc. C'est une froc.
Oui, c'est
mais c'est fou de voir à quel point on aurait pu être vraiment différent. Les A. Au Saguenay, on a tendance à plus dire A comme un gars, quoi, qu'un gars. Fait que de juste voir ça des fois qu'on s'en rend pas compte, puis de voir l'Acadien aussi qui sont vraiment avec un accent plus fort que nous, c'est, je trouve ça fascinant de voir tous les accents, mais ça me plaît.
Je pense justement à un mot comme baleine, il y a deux façons de le dire, il y a baleine ou baleine, toi tu dis...
Moi je dis baleine.
Baleine, ouais. Fait que c'est souvent des mots comme justement qui font en sorte qu'on parle la même langue, le latin ça vient tout du même... de la même racine, mais qui des accents, ça les emmène tellement ailleurs. J'ai une amie, elle est allée en France, à Paris, puis elle voulait juste un ustensile, elle voulait une fourchette, puis le serveur ne comprenait pas. Pardon, un quoi? Ben, une fourchette, je sais pas. Ben, là, elle l'a mimé, puis elle a fait, ah, oh, un couvert! Elle a fait, ah, oh, ben oui, un couvert! Que là, c'est comme, ils parlent la même langue, mais pourtant, la signification est différente pour l'un et pour l'autre. Fait que, super, hein, c'est bon à savoir, c'est une de tes passions. Et là, j'embarque sur ta deuxième question qui était en lien avec le voyage dans le temps. Oui. Donc, si tu pouvais voyager dans le temps, ça serait où et quand et pourquoi?
C'est sûr, si on me forcerait, admettons, parce que dans le meilleur des mondes, je préférerais rester dans notre époque parce qu'on a pas mal la meilleure jusqu'à date. Surtout dans ma situation, je pense que je suis pas mal la meilleure place que je peux être jusqu'à date, à part certaines petites sociétés. Mais moi, celle qui m'a toujours le plus passionné, c'est Rome. Fait que ça serait aller dans le temps de Rome, surtout dans la période d'Auguste, vu que c'était plus là qu'il y avait la paix un peu et tout. Donc c'est sûr que je voudrais pas être comme ces tranchées, puis où est-ce qu'il y a tout le temps la guerre partout, parce que ça arrête jamais. Mais juste être pendant cette période-là, une période de paix qui a duré quasiment 200 ans, c'est sûr qu'il y a toujours des petites guerres, ces frontières, mais c'était plus tranquille. Mais de voir la grandeur de cette société-là en tant que telle, moi je l'ai toujours vu comme, à part aujourd'hui, c'est la plus grande société, c'est la plus grande fois qu'on a, l'humanité en tant que telle a été d'une grandeur comme ça. Ou du moins du côté occidental. En Chine, il y a eu l'Empire de Qing aussi qui était similaire, assez fort. Puis c'est quasiment une des seules fois que les deux respectaient un autre empire. Sinon, les autres, c'était tout le temps des barbares aux alentours. Mais les deux, il y avait un respect. Ça prouve la grandeur des deux aussi, je trouve, un peu là-dessus. Parce que si on oublie que les deux peuples se connaissaient un peu, mais pas tant que ça non plus, parce que les distances, c'était incroyable à l'époque. En cheval, à un moment donné, tu veux bien, mais c'est long.
Oui, c'est vrai.
C'est un bon petit...
De Rome... En Chine, j'ai pas regardé sur Google Maps. Je pense qu'il y a même pas l'option sur cheval. Parce qu'ils prennent en considération qu'il y a personne qui prendrait ce choix-là. Mais j'imagine pas que le déplacement, ça devait être quelque chose. Puis là, tu parles justement de la grandeur de l'Empire romain. Puis c'est vrai que ça a été vraiment... Ça a été quand même... Tu sais, ils ont eu Astérix et Obélix qui en parlent encore. Parce que ça a été un moment très important qui a marqué l'époque. Puis y a-tu des faits ou des choses qui seraient intéressantes à part le voir peut-être la grandeur de l'Empire? Est-ce qu'il y aurait comme peut-être un costume, je sais pas, le type de musique qui t'intéresserait aussi? Ou...
Moi, ça, à la limite, ça serait la bouffe. Parce que ça m'intrigue, la bouffe à l'époque, parce que on l'oublie tout le temps, mais dans ce temps-là, vu qu'il n'y avait pas encore découvert les Amériques un peu, mais en tout cas, il n'y avait pas de contact entre les deux peuples. On n'avait pas la tomate, on n'avait pas le maïs, on n'avait pas la patate. Fait que juste la tomate dans la culture italienne, c'est tout. Tu enlèves la tomate, ils mangent quasiment plus rien. Hein. Fait que de voir qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque-là sans tomate, sans patate, sans maïs, c'est ça, il y avait même pas de sucre, la canne à sucre, elle avait pas été tant découverte, il y avait pas d'haricots, il manquait vraiment des outils, on oublie, mais il y a beaucoup de notre consommation qu'on fait aujourd'hui, c'est à cause des Incas, c'est à cause des Aztèques aussi. Fait que de voir cette différence-là culinaire, de voir à quel point, comme eux, comme leur ketchup dans le temps, c'était le garum. Le garum, c'est plus ou moins de l'huile de poisson. Mais un petit peu plus, c'est du poisson fermenté, en fait, qui a moisi, puis tu prends l'huile de ça, puis tu fais une petite sauce. Eux autres, ils mettaient ça comme du ketchup. Ils en mettaient partout, puis c'était c'est le ketchup de l'époque. Quasiment dans toutes les recettes, il y en a. Ça, je trouve que tu serais bien sûr. J'aime pas tant que j'aime. J'ai de la misère à manger à cause de mes allergies d'affaires de même, mais comme là, vu qu'il y avait pas des arachides, vu que ça venait d'ailleurs, c'était pas si pire. Fait que j'ai arrêté sûrement d'être correct. De toute façon, j'espère que si je transporte dans le temps, je deviens un petit peu moins fragile, là.
Mais ça m'aiderait. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça si, admettons, tu te téléportes dans le temps, est-ce que t'as comme une allergie de moins ou quelque chose de genre. Puis aussi, tu peux revenir aussi, c'est comme, tu t'es pas pogné là, là. Moi, je me suis dit, c'est plate, t'arrives là-bas, puis là, tu peux pas comme revenir, là. Fait que je veux juste spécifier que si jamais, par exemple, tu veux te téléporter ailleurs, ça serait possible aussi, là, c'est exemple. Mais la chute aussi de l'Empire romain, ça serait quelque chose à voir, peut-être pas assister ou physiquement, là, mais à voir comment ça s'est passé. Les raisons, ben là, les raisons sont politiques, là. Mais non, je trouve ça intéressant. qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque-là. La salade, je sais pas.
Non, c'est ça, parce que surtout qu'en plus, on y a, y a comme la plupart des gens, parce que la majorité du monde vivait comme dans des insulés. Les insulés, c'est plus ou moins des blocs appartements d'aujourd'hui, c'est pas mal la même chose. Fait que tout le monde avait leur petit appartement puis tout, puis on en a découvert encore aujourd'hui, on en découvre avec Pompéi, des affaires de même. Ces gens-là, ils avaient pas de cuisine dans leur appartement. Fait qu'ils avaient pas le choix d'aller tout le temps manger dans un resto, aller manger dans des affaires de même. Fait que c'est sûr qu'on le sait avec Pompéi aussi, il y avait des fast-foods, des petites affaires de même qui cuisinaient, c'était surtout des escargots, du mouton, des petites affaires de même. Leur nourriture était vraiment différente, c'était vraiment fou à quel point. Ils utilisaient même pas de beurre. Ils pouvaient utiliser du beurre, mais pour eux autres, du beurre, c'était des barbares qui utilisaient ça puis tout, fait qu'ils mettaient de l'huile d'olive. Fait que juste côté pâtisserie pis tout, ça doit être différent. Si tu fais un gâteau pis y a pas de beurre, c'est de l'huile d'olive, ça doit être pas spécial.
C'est vrai, hein. Ça doit pas monter, je sais pas. J'avoue, c'est, là, tu m'as, je vais regarder, tu me donnes envie de regarder c'est quoi les recettes qu'ils faisaient dans ce temps-là, dans l'époque des Romains. Ah, ok.
Mais y en a un YouTuber, en plus, qui fait ça. C'est History with Max Miller.
Ok.
Pis il fait que ça, il fait juste des recettes anciennes pis tout. Il en a fait de rhum, il a fait comme des alcools, il a essayé de faire un garum, justement. Mais c'est que le problème avec ces recettes-là, c'est comme toutes les recettes qu'on a quasiment avant 1900 ou 1800, ils ont jamais les quantités. Ils nous le disent jamais. Ils nous disent, ça prend ça, 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 mais comme les quantités, c'est vraiment important en cuisine. Là. Si tu me mets du sel, moi, j'en mets-tu pour que ça soit full salé? Je mets-tu une pincée de sel? Je mets-tu...
C'est vrai,
comme tu mets du porc, mais j'en mets combien de porc pour les restes des épices, le reste... La cuisson, ils disent pas non plus le 3-4-5, mais juste mets ça au four, puis attends, puis maintenant tu le sors, puis tu le manges. Je suis comme, ok, ouais, mais faut que ça soit comment, mais...
c'est surtout aussi le fait que, je sais pas, le temps là-bas, ça doit être... Est-ce qu'il existait le temps, c'est la question? Tu sais, des fois, le temps, nous, on l'a occidental, l'heure, c'est partout ailleurs, mais dans l'époque romaine, est-ce que le temps existait? Ben, probablement avec le soleil, tu sais, à midi, quand le soleil va être pointé, mais comme... J'essaie d'imaginer un moment où qu'il aurait pu créer une mini-minuterie. Puis dans le fond, le temps, ça serait comme... Quand l'ombre va être à telle distance ou numéro, ça va être là, tu dois sortir le gâteau. Mais, wow, ok, super, merci pour cette découverte de voyage dans le temps, dans l'époque des Romains, pour la nourriture. Puis ma troisième question aussi, c'est un idole ou quelqu'un que tu admires, que tu apprécies beaucoup, ça serait qui?
C'est une des personnes qui me le plus inspiré en tant que tel. Je l'idolâtre pas vraiment parce qu'on a vraiment des parcours trop différents, mais Alexandre Astier, pas si tu le connais, là, c'est lui qui fait Kaamelott.
Ok, oui.
La série française, comme des rois, ben pas du roi Arthur, puis la quête du Graal, puis tout. C'est lui qui a fait ça, puis comme cet homme-là, il fait tout dans ça. Il est acteur, c'est lui qui fait le rôle d'Arthur, mais c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui fait l'écriture, c'est lui qui fait toute la réalisation en arrière-plan. C'est lui qui fait la musique même, c'est des musiques d'orchestre, des grosses affaires, fait qu'il est maestro de tout ça. Il en fait tellement, c'est comme, pour moi, présentement, c'est un des plus grands artistes qu'on a dans la francophonie, puis en France aussi, c'est pas leur plus gros. C'est lui en tout cas moi, qui me résonne plus, c'est lui qui m'a amené vers la culture française plus aussi. Parce qu'avant, comme beaucoup de Québécois, l'humour français, on la catche pas vraiment, puis même quand on la catche, on fait comme, c'est pas si drôle que ça, comme c'est un petit jeu de mots faible. Mais pour, dans Kaamelott, je sais pas si c'est un autre niveau, il y a tout le temps des insides un peu qui grandissent dans la série, que tu finis par voir. Puis comment il a passé d'une petite série de 3 minutes, que c'était juste des sketchs un peu gags sans histoire, que c'était juste, on rit puis c'est drôle puis c'est fini puis on passe à autre chose, à une série qui est vraiment dramatique à la fin, qui parle d'un héros qui se suicide puis de, à quel point il abandonne son rêve pendant que c'est un élu puis tout, puis à quel point il vit mal avec ça, qui vit mal avec le fait qu'il est pas capable d'avoir d'enfants puis tout, puis c'est de comment il a réussi à changer la série tout en gardant l'âme de Kaamelott, parce que ça reste drôle un peu par moment, mais ça reste pas comme cliché français de ces dramatiques avec des petites blagues, c'est vraiment, c'est des grosses blagues, tu ris pendant que t'es en train de quasiment de pleurer, puis comment il l'a monté, puis là il y a un film qui a sorti récemment cet été, que ça faisait 10 ans que les fans de Kaamelott on attendait. Puis là, il a fini par sortir. J'ai eu peur qu'il sorte pas au Québec. J'étais même mort. J'étais en train de checker des billets quasiment en France pour y aller. Pendant que j'étais le gros confinement, je me disais, je sais pas si ça me tente de payer 3 000$ pour aller voir pour juste un film en plus, puis que le reste pourrait rien faire. On est en confinement partout, puis en France, c'était pendant leur grosse période. Mais il a fini par sortir au Québec, on a eu le droit. Puis ça, cet homme-là, il fait en plus de l'humour aussi. Il fait il fait pas nécessairement du stand-up à proprement parler, mais des fois il fait des shows. Comme dernièrement, il avait fait un show de l'exoconférence qui parlait justement des extraterrestres, des choses comme ça, de l'espace aussi qui me passionne beaucoup. Fait que tout ça, il me rejoint sur tellement de niveaux, puis tout le long, il déconstruisait un peu les affaires comme Roswell, les affaires de même. Mais tout le temps avec du drôle, mais avec des arguments qui sont béton aussi, que c'est comme... il y a beaucoup de raisons. Là. Je comprends pourquoi il y a du monde qui peuvent croire aux extraterrestres en tant que tel, mais c'est comme lui, il apporte la différence entre croire aux extraterrestres puis croire entre le contact extraterrestre. Mm-hmm. Comme oui, sûrement qu'il y en a dans une galaxie, qu'il y a sûrement un autre mode de vie en tant que tel, puis c'est sûrement pas comme des petits hommes gris comme on a tendance à s'imaginer, mais c'est juste d'autres mondes qui vivent ailleurs, parce que la vie en tant que tel, ça se peut que ça arrive. Ça, on le sait que ça arrive, on en a sur Europa, il y a de la vie un peu. Fait qu'on sait que ça peut exister ailleurs. Mais de voir, lui, c'est ça, le problème du contact, de comme, ça fait pas de sens qu'il y a un avion qui s'est écrasé en 49 dans le désert de Roswell, direct à côté d'une base secrète, mm-hmm. pendant qu'on n'a jamais vu avant. Puis là, c'est pendant la guerre froide en plus. Fait que c'est sûr que les Américains, ils veulent faire passer ça comme s'il y avait une soucoupe volante pour montrer qu'ils ont la main supérieure contre les Russes. Puis, hey, on a une technologie extraterrestre, vous avez pas ça. Puis, mm-hmm. fait que c'est le fun comment il déconstruit des personnes aussi qui ont dit qu'ils ont eu des rencontres avec des extraterrestres, puis tout, puis à quel point... Ouais, mais cette personne-là a jamais fait de sens de toute sa vie, puis là, elle commence à faire une histoire pour avoir de l'attention, puis on peut le voir par plein d'affaires. Je trouvais ça fou de voir ça.
Fait que c'est vraiment comme... C'est parce que moi, j'ai écouté vaguement un épisode de Kaamelott, mais je pense que c'est pas de celui que tu me parles, là. C'est vraiment... Peut-être que oui, c'est vraiment très humoristique, c'est comme caricatural. Je sais pas si on parle du même Kaamelott.
Probablement, ben il y en a juste un français présentement, okay. C'est pas mal le seul. C'est ça, au début, c'était juste de l'humour, là, il y avait pas d'histoire.
Oui,
tu voyais juste, il y avait Perceval puis Caradoc qui faisaient des choses stupides, parce que c'est ça, il y a des personnages que c'est vraiment des idiots, c'est des enfants, puis ils jouent beaucoup ça, c'est beaucoup des personnages qui sont typiquement stupides, mais un peu à leur façon, puis ont tous un petit peu des buts. Puis malgré qu'ils soient des fois pas intelligents, mettons comme Perceval, c'est un des personnages les plus importants de la série. Mais comme il est vraiment stupide, il est vraiment enfantin, il sait même pas son propre nom. Des fois, il se trompe, puis au lieu de dire Perceval, il va dire Persiflage, des affaires de même. Mais c'est de l'humour stupide de même, mais ce personnage-là, il est full loyal envers Arthur, c'est son chevalier le plus proche en tant que tel. Puis, je sais pas, c'est une série qui m'a marqué, je l'ai découvert un peu jeune, vers 14-15 ans. Là, je les écoutais tout en ligne, parce que quand il sortait ici au Québec, c'était jamais comme ça se suivait pas. C'est sûr, les trois premières saisons, c'est pas grave que ça suit pas, parce que c'est juste des petits sketchs. Mais à la longue, quand tu viens plus tard dans la série, justement, il s'en va à Rome, lui, pendant son enfance, les affaires de main. De voir tout ça, comment il a réalisé ça, les images, c'est magnifique.
Ouais, mais c'est surtout aussi que là, c'est comme il commençait tout petit, lui, il se pensait comme... quand il a commencé ça, j'imagine qu'il s'attendait pas à ce que ça soit aussi long ou que ça prenne autant d'ampleur pour faire un film. Tu sais, il a quand même pensé à faire des mini-sketchs de 3 minutes pour faire finalement un film qui sort, puis c'est 1 heure, puis faire une histoire quand même, là, de créer une histoire à travers tous ces petits personnages-là qu'il a créés. Mais j'ai remarqué aussi que ça avait l'air... C'était super historique, tu sais, c'était pas... ils font souvent référence à des événements historiques qui se sont passés. Puis c'est là que je me souviens que j'avais ri, tu sais. J'étais là, ah oui, c'est vrai, à tel événement, la chute de l'Empire romain, ou je sais pas, quelque chose qui fait réfléchir. C'est l'humour subtil, vraiment.
Ouais, non, vraiment, parce que ça, il est capable de faire passer des messages actuels avec l'époque aussi, des fois, puis c'est vraiment bien. Comme dans l'épisode, il parlait de l'homosexualité puis tout, puis il était comme, il est pas gay, il y a aucun personnage vraiment gay, il y en a un qui est comme ambigu, mais qui l'est pas finalement à la fin, il y a vraiment une femme, mais il est comme vraiment efféminé, mais de comme, lui, il est comme juste, parce qu'on est comme dans le début un peu de la chrétienté aussi, on est encore dans l'époque où est-ce que les dieux païens, comme lui Arthur, il est plus avec le dieu Mars, il est plus dans cette religion-là, il y a pas grand personnage qui sont vraiment typiquement religieux, mais ça commence, là, il y a une personne qui prend les notes que lui, c'est un catholique, c'est un chrétien, puis il écoute le pape puis tout. La même année, ben, c'est le pape qui vient comme à leur rencontre, puis il demande s'il faut interdire l'homosexualité, puis tout, puis il est comme, pourquoi on interdirait ça? Ça change quoi à tout le monde? Ça change rien? Puis il est comme, ouais, mais parce qu'il y a du monde qui trouve que c'est pas correct, puis blablabla, puis il est comme, ouais, non, ça n'a pas rapport, là, moi ici, c'est correct, là. Mm-hmm. Puis il est même dans la polygamie un peu aussi, là, c'est pas tant de la polyamour, par exemple, là, c'est vraiment plus juste l'homme qui a plein de femmes, puis ils sont comme, la femme, peux-tu en avoir? Puis il est comme, pourquoi non? Non, ça c'est pas correct. Là, mais...
C'est ça, ça remet en cause des valeurs que dans ce temps-là, il était très des interdictions. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, quand tu le remets en perspective comme l'homosexualité, pourquoi non? Puis surtout, c'est juste les femmes aussi, le droit des femmes d'avoir plusieurs hommes, pourquoi pas, tu sais? Mais je trouve ça le fun, c'est peut-être ça qui t'a peut-être interpellé. Est-ce que c'est à partir de cet épisode-là que ça t'a interpellé ou c'est... Ça fait vraiment...
Non, moi, c'était vraiment l'humour au début. C'était juste... Parce qu'au début, je l'avais écouté un petit peu avec Historia, mais ça, je comprenais pas l'histoire. Je connaissais pas l'histoire, mais je connaissais pas l'humour français. Fait comme j'étais pas capable d'agripper pis tout, À un moment donné, j'en ai juste vu une que, je sais pas, l'humour est venu me chercher parce qu'elle était stupide. C'est juste quelqu'un qui insultait une autre personne parce que c'était un porte-drapeau. Fait qu'il s'envoyait des messages avec des drapeaux, mais il arrêtait pas de se tromper dans l'ordre de ses drapeaux. Ou des fois, justement, comme on revient sur l'angle un peu, mais il, comme il utilisait quelque chose qui était archaïque, que l'autre comprenait pas en avant parce que c'était rendu que ça voulait dire autre chose aujourd'hui, le mouvement qu'il faisait. Fait que ça a juste commencé une guerre entre deux personnes, juste pour qu'il y ait un con qui comprenait pas ses drapeaux. Puis là, ben, c'est juste ça, ça a tellement été stupide, puis tellement drôle, puis là, j'ai commencé à gripper, puis là, j'ai commencé à plus les écouter, puis les écouter. Puis déjà que j'ai toujours trippé un peu sur le Moyen-Âge aussi, puis même la quête du Graal aussi, parce que c'est quand même, c'est une histoire qui est souvent racontée de façon différente dans Shrek, me semble. C'est-tu dans Shrek qui en parlait? Dans Shrek, me semble qu'il l'avait.
Oui.
Aussi, mais comme, il y a tout le temps, ça revient tout le temps un peu à la quête du Graal, puis l'Arthur, puis... Cette histoire-là, elle me fascine, puis là, de voir sous l'œil d'une autre personne aussi, c'est le fun. Il y a des personnages qui n'existent pas dans son histoire, il y a des personnages qui font autre chose, qui sont pas comme ils sont dans, dans l'autre. Puis je trouve ça... Bon, c'est un grand artiste, vraiment, là, Kaamelott.
C'est super, parce que Alexandre Dottis, il a la capacité d'avoir, un, d'avoir trouvé l'idée, deux, de l'avoir conceptualisé, trois, filmé, personnage, quatre, de synopsis, il y a vraiment beaucoup d'étapes par lesquelles il a passé pour pouvoir arriver à ce produit-là. Puis il était comme tout seul à gérer, peut-être qu'il y avait du monde qui l'aidait, mais tu sais, ça a été quand même le chef qui est des opérations, là, le chef d'orchestre. Fait que c'est quand même, j'avoue que c'est vraiment, ça me fait penser à Normand Brathwaite, là, ici, là, c'est un Normand Brathwaite, mais en France, qui fait tout, là, puis... C'est ça qui est beau. C'est vraiment beau.
Non, vraiment, lui en fait plein, ça, au début, il se faisait aider un peu par ses amis lyonnais. C'est comme si c'était tout du monde quasiment dans le scénario, sauf la reine Guenièvre quasiment au début, puis après tu n'es plus, mais comme c'était tous des amis de théâtre un peu, du monde qui venait tous de Lyon, c'était tous des Lyonnais, il n'y avait aucun Parisien, il n'y avait aucune personne quasiment d'autres régions, parce qu'il les connaissait pas. Lui, c'était avant tout un gars de théâtre puis un gars de musique. Fait qu'il a juste starté ça, puis là au début, il pêchait juste ça parce qu'il cherchait un remplacement pour Caméra Café en France. Ça venait de commencer, puis là, ben, eux autres, après une saison, ils ont découvert que le concept était... C'était redondant. Au Québec, on ne l'a pas découvert. On a fait, c'est correct. On en veut pendant 10 saisons. On a du monde qui parle de Van Machine à café. Mais en France, ça a juste duré une saison ou deux, à la limite. Puis on switchait à Kaamelott. Kaamelott qui a duré 6 saisons. Puis ça a juste, ça a tout le temps grossi. Ça a tout le temps été de mieux en mieux. Puis là, avec les films, justement, ça commence à devenir mieux. Il a fait des livres. Il fait des BD là-dessus. Puis c'est rendu quand même un gros univers. Et c'est apprécié parce que les fans de Kaamelott sont vraiment, sont intenses. C'est des fans quasiment comme un peu de Star Wars puis tout. Puis, du monde, pas qu'ils se définissent par ça, mais on a tout le temps nos petits insights entre nous autres, comme, si je rencontre quelqu'un qui a écouté Kaamelott, il n'aura pas besoin de me le dire que je vais le remarquer un peu dans la façon qu'il parle dans les trucs. On a tendance à, surtout qu'on a grandi avec ça, on a comme des expressions qui sortent. Je connais les expressions françaises à cause de Kaamelott, je connais les mots, je connais les petites choses comme ça, je trouve ça drôle, là.
Ça, c'est, ce qui est drôle, c'est que tu peux les reconnaître, des personnes qui n'ont même pas à le dire, dans l'accent, dans la façon qu'ils s'expriment. Tu peux le deviner facilement, tu sais, comme, ok, t'as écouté ma Kaamelott, c'est clair, parce que ce référent-là, je le sais, c'est à tel épisode, puis tel moment de, qui s'est passé. Ah, mais je savais pas que c'était vraiment très un phénoménal, peut-être pas phénoménal, mais qu'il y avait des groupes. Y a-tu des groupes sur Facebook, justement, qui...
Oui, il y en a, mettons, moi je suis plus sur Reddit, mais sur Reddit, il y a un groupe vraiment de Kaamelott, puis on se parle entre nous autres, on se pose des questions, comme tout le monde donnait les reviews sur le film, puis tout. Parce que le film, ça faisait 10 ans qu'on l'attendait, puis ça faisait... on voulait voir comment il allait mener ça, puis on le savait que ça allait être un petit peu différent de la série. Ça a été quand même pas beaucoup différent de la série, mais quand même juste assez pour qu'on fasse... C'est quasiment un nouvel univers qui a commencé, puis qui a fait en parallèle, puis les histoires, on dirait qu'ils ont peut-être moins de sens un peu une envers l'autre. Mais non, c'est ça, les fans, on est là-dessus, on est ses références. Des fois, j'en vois sur des affaires qui n'ont pas rapport, puis... Comme il y a, j'aimerais peut-être pas le dire, vu que c'est la botte secrète de Kaamelott, mais quand on l'écoute, on le sait assez vite. C'est que il y a deux personnages qui sont cons, Perceval pis Caradoc. Pis vu qu'ils sont pas éduqués pis tout, ils savent même pas lire, ils savent rien, il y a plein de mots qu'ils comprennent pas. Mais ils veulent pas le montrer qu'ils sont cons, même si tout le monde le sait qu'ils sont cons, parce que c'est trop apparent. Fait que quand quelqu'un utilise un mot qu'il connaît pas, il dit tout le temps c'est pas faux. Fait que des fois, je le vois ça sur des commentaires de quand c'est comme mal écrit ou genre c'est pas tant compréhensible. Il y a quelqu'un qui va marquer c'est pas faux. Puis il va juste comme avoir plein de likes parce que le monde comprenne la référence vite fait.
Puis quelqu'un d'externe qui a comme pas écouté ça, nécessairement, comme moi, qui dirait comme pourquoi 96 likes sur c'est pas faux. OK.
c'est excellent. Ça avait quand même du sens. C'est pas trop une grosse inside, mais c'est juste, tu peux le placer dans une conversation des fois, de juste au lieu de dire oui, c'est pas faux.
Oui.
Comme tu vas le comprendre, OK, lui, clairement.
Mais ça te donne-tu comme envie de regarder de toi-même en créer une, exemple, télésérie?
Ça a toujours été, au début, quand je m'avais inscrit à l'ENH pour auteur, c'était ça que je m'avais dit en tant que tel, que moi, mon but, c'était de faire un Kaamelott, mais québécois. Mais c'est ça, ça serait vraiment différent parce que ça, on vient vraiment pas du même milieu. Lui, il avait une connaissance musicale incroyable, il vient du théâtre, tout ça. J'ai aucun de cette formation-là, quoi que ce soit. Mais la série, par contre, comment elle était faite, capable d'être dramatique au travers de l'humour simple, en plus que c'est juste de l'humour bête un peu, mais qui est quand même intelligente pareil, mais qui... de traverser là-dessus, c'est ça qui me passionne. Là. De peut-être, en plus, c'est historique en même temps, mais c'est pas trop historique. Comme tu peux oublier que c'est le roi Arthur, puis ça change pas grand-chose. Mm-hmm. Ça pourrait être moderne, puis il y aurait pas une si grosse différence que ça dans les personnages. Puis, mm-hmm. Mais non, j'adorerais ça.
Fait que dans le fond, t'as peut-être pas le bagage de théâtre, comme tu dis, ou peut-être d'improvisateur ou de musique, mais il y a toujours une possibilité de trouver des personnes qui sont bons. T'sais. Je sais pas, il y a du monde qui écrivent « Ah, on cherche deux comédiens, on vous offre la pizza, allez à tel endroit. » Mais si toi, tu pourrais être l'auteur, exemple, tu dis aux autres quoi faire, tu sais, le metteur en scène, un peu. Je sais pas si ça pourrait être un projet plus tard pour toi.
Ouais, non, c'est sûr que c'est ça plus tard en tant que tel. Ce serait la chose que je veux le plus faire en tant que tel. Mais je sais pas quand est-ce le faire en tant que tel, parce que je veux que ça soit, comme on appelle un peu en littérature, un magnus opium en tant que tel, l'œuvre de l'artiste. Un peu comme George Lucas, il a fait plein de projets dans sa vie, mais on le reconnaît surtout pour Star Wars. C'est son œuvre typique, où c'est Stephen King, son magnus opium, c'est plus La Tour sombre, même si ses autres livres sont un petit peu plus connus, c'est vraiment son gros œuvre en tant que tel. Fait que dans ma tête, ça serait plus ça, là. Plus que l'humour en tant que tel, vraiment, j'aimerais plus être reconnu pour avoir fait ce projet-là en tant que tel, puis ça, parce que je trouve que ça change les mentalités un peu, d'une certaine façon, parce que ça, c'est apporter des concepts qu'on a moins. Ici, mettons, au Québec, faut vraiment que ça soit dramatique, faut vraiment que ça soit humoristique, faut vraiment que ça soit plus en tant que tel dans une case. Fait que de faire des mélanges de styles là-dedans, tout en mettant une histoire qui est passionnante puis qui est de goût d'écouter, pour ça, ça serait le fun. Oui. Vraiment, ça, aller chercher du monde d'ailleurs, plus des acteurs, plus des musiciens. Parce qu'il y a du monde, justement, des fois, qui sont plus unidimensionnels aussi. Moi, j'ai plus un background un peu d'écriture. Fait que d'avoir du monde qui sont plus un background juste d'auteur, ben juste d'acteur puis des choses comme ça, ça serait intéressant.
Oui, parce que les ressources, il y en a tellement, là. Puis je trouve que ce que j'aime dans le concept du Moyen-Âge, c'est que tu peux, comme tu dis, là, dans tes séries, tu peux tellement aborder des faits de moderne qu'on peut même rire. Puis dans l'ancien temps, tu peux te projeter, hein, dans l'ancien temps, comment ils réagiraient par rapport, je sais pas, aux dénonciations des personnes, hashtag MeToo, tu sais, exemple, remettre l'événement hashtag MeToo dans les années, au Moyen-Âge, comment ça pourrait, tu sais, là, de se dire, OK, on veut faire référence au hashtag MeToo, mais dans le temps du Moyen-Âge, tu sais, il n'y a pas de cellulaire, fait que ça serait sur des manuscrits, je sais pas, on écrit le nom des personnes sur un papier, un babillard, je pense que ça n'existait pas, mais, je te souhaite bonne chance dans ton projet, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Puis, tu sais, moi, je pense à Guenièvre, là. Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'écoutais ça religieusement, Guenièvre. C'était le personnage, en tout cas, elle a des pouvoirs magiques, là. Puis ça fait référence aussi à le temps, du Moyen-Âge, les costumes et tout, mais... En tout cas, je te souhaite bonne chance dans tes projets, ça m'emballe full. Pour ça, je continue à parler, mais on va terminer l'épisode comme ça. Puis merci encore de ta présence. Puis j'ai oublié de te présenter, j'oublie tout le temps de présenter mes invités, tu sais. Je commence, puis je suis comme, je vais le parler tantôt, puis là, j'oublie. Fait que là, je vais le faire tout de suite, puis au pire, je le couperai au montage. Et je le mettrai au début. OK, donc, je te présente Maxime. Donc, Maxime, tu fais souvent des soirées d'humour, tu as fait des allumetières. T'as justement fait la soirée à Alex Roof également que tu m'as parlé. Tu viens du Saguenay. Y a-t-il autre chose que je peux dire? T'as-tu un podcast ou qu'est-ce qui est?
Je fais pas de projet à l'extérieur en tant que tel présentement. J'en fais, mais comme pas public. Quand j'écris mes affaires de même, j'écris des nouvelles, des trucs comme ça. C'est toujours juste privé pour moi en tant que tel pour me rendre meilleur. Mais présentement, c'est vraiment juste les soirées d'humour. Fait qu'à la limite, c'est me suivre sur Instagram pour voir les dates de tout ça. Je fais des numéros de à peu près une dizaine de minutes. Présentement, je parle plus de ma transition. Mais plus ça va venir, plus je vais parler d'autres choses aussi. J'adore l'humour. Ça fait 3 ans que j'en fais. C'est quelque chose qui a été vraiment... Ça m'a aidé dans mon développement personnel de faire de l'humour. Je sais pas pour toi, faire de la scène aussi, ça nous change comme personne un peu de la bonne façon, je pense. Que ça nous rend plus à l'aise en tant que tel avec le public. Ça nous rend plus à l'aise avec nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à faire plus d'autodérision un peu sur scène, ça marche beaucoup, puis il y a une raison pour ça. Mais c'est le fun d'être vulnérable sur une scène, puis que ça reflète après ça dans la vie de tous les jours.
Puis pour une personne, exemple, qui te connaît pas tant, qui t'a pas vu sur la scène, tu parles des thèmes, tu parles de ta transition. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes aussi que tu parles brièvement?
Présentement, pour ce que je fais sur scène, non, c'est beaucoup de ma transition, mon coming out un peu, ma voix, des choses comme ça, des choses qui tournent un peu alentour de ça. Mais comme présentement, je suis en train de travailler sur un numéro qui parle plus de mes allergies aussi. J'ai fait un numéro, il y a pas long, qui parlait de mon amour pour les chiens aussi. J'ai fait une petite chronique radio là-dessus, qui passe sur les chiens en général aussi, mais mes chiens aussi. Puis c'est ça, mon numéro sur ma voix. Puis plus en plus ça se développe. J'essaie d'avoir des numéros qui sont plus solides et que j'ai tendance à faire souvent le même, mais qui est toujours retravaillé, qui est toujours un petit peu mieux, parce que c'est sans fin l'humour un peu.
Oui, c'est tout le temps.
Si t'as jamais été quelque chose qui est fini, ça va être ça, puis...
Comme on disait tantôt, tu présentais un numéro qui marchait vraiment bien. Ça fait longtemps que tu le rodes durant l'été. Tu as fait pique-nique humour. Puis là, tu es arrivé devant un public où ça riait pas tant, où il était gêné, réservé. Fait que c'est toujours à te redemander, ah, y a-tu des moments où j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toujours réécrire. Ouais, c'est vraiment ça. Mais merci beaucoup, Maxime.
Merci à toi, Coralie.
Hey, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a vraiment donné envie de regarder la série télé Kaamelott. Fait que, cours vite la regarder sur YouTube, ils sont rendus à plein de saisons. T'en as pour un bon bout de temps à t'occuper cet été. Sinon, le prochain épisode, je vais faire une chronique sur les vétérans. Comme, c'est quoi ça, un vétéran? La santé mentale aussi, reliée aux personnes qui reviennent de la guerre. J'ai lu justement un projet de recherche qui en parle, puis j'ai envie de te faire part de mes découvertes sur c'est comment un vétéran vit quand il revient de la guerre. Je m'appelle Coralie Dubeau, je suis humoriste, et j'espère que tu as passé un bon moment.